Equinox Rock, la radio découverte.
Ce mercredi 28 février 2018, à 20h, le Centre culturel de la Marlagne, sur les hauteurs de Ouépion, va vivre un moment d'exception. C'est en effet ce soir-là que la vie culturelle namuroise a rendez-vous avec la musique, on pourrait dire même les musiques, les lumières, les images, les vidéos, d'un auteur, réalisateur important qui s'appelle Eric Bettens, et que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio. Ce sera un spectacle total qui vaudra la peine d'être vu et vécu et qui a pour titre Un moment sur Terre. Alors pour en parler aujourd'hui précisément, nous avons convié un des responsables du Rotary Club de Profondeville, d'abord à qui l'on doit cette belle initiative. Il s'appelle Yvain Stiennon. Bonjour Yvain.
Bonjour.
Et d'autre part, le réalisateur, celui-là même qui sera au centre du spectacle, Eric Bettens. Eric Bettens, bonjour.
Bonjour.
Alors précisément, merci d'avoir répondu à notre invitation pour mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs qui sont toujours friands de belles et bonnes choses. Yvain Stiennon, je me tourne vers vous. Commençons par justement se poser la question, mais quelle est l'idée fondatrice de ce spectacle? En quoi ce spectacle est-il lié avec l'activité régulière du Rotary Club Profondevillois?
Eh bien, je pense qu'il faut d'abord parler du Rotary Club et de ce que c'est que le Rotary.
Oui.
En fait, c'est une organisation internationale qui regroupe plusieurs centaines de milliers de clubs de par le monde. Il y a plusieurs clubs, je veux dire, sur la région namuroise,
oui,
dont notre club, le Rotary Club de Profondeville. Et en fait, le but du Rotary, c'est d'aider et de servir de manière assez générale. C'est-à-dire que chaque club a un certain nombre d'œuvres,
oui,
qu'il aide.
C'est surtout philanthropique?
C'est essentiellement philanthropique.
Ouais. Les missions font partie, dans les missions, il y a aussi peut-être la rencontre entre les membres, ce que les uns et les autres peuvent s'apporter.
Tout à fait, parce qu'évidemment, au sein de chaque club, c'est un regroupement d'un certain nombre de personnes, représentatifs de la société, de la localité dans laquelle ils s'intègrent.
Oui.
Et, donc il y a des actions à plusieurs niveaux. Il y a des actions en termes locaux, ça c'est ce que chaque club propose, et notamment dans notre cas, on essaye d'aider un certain nombre de foyers pour enfants,
oui,
de l'entité de Profondeville. Mais alors il y a aussi des actions quand un certain nombre de clubs se regroupent, et alors on peut faire des actions plus importantes. Par exemple, on a une action qui s'appelle l'Espoir en tête, qui vise notamment à aider les recherches sur les maladies du cerveau. Donc ça c'est national voire international, à un niveau international, ou oui c'est ça, c'est-à-dire que c'est un regroupement international des différents clubs Rotary.
Oui.
Et puis même au niveau mondial, un des fers de lance du Rotary, c'est d'essayer d'éradiquer la poliomyélite. Au niveau mondial, et on y est presque arrivé, ou en tout cas c'est en bonne voie, et donc là c'est vraiment une œuvre globale au niveau du Rotary Club International.
Une mission très intéressante, tournée essentiellement vers l'humanitaire.
Tout à fait.
Alors précisément, pour en venir au spectacle et à l'événement exceptionnel de ce 28 février, vous insistez dans votre communication sur cet aspect-là, des choses exceptionnelles par quoi? Par ses compositions, par un mélange d'instruments acoustiques et électroniques, et aussi par la personnalité de celui que vous avez invité.
Bien, tout à fait. Eric Bettens, en fait, je le connais depuis des années et des années. Je le connais maintenant, ça fait plus de 20 ans. On a commencé, à l'orchestre Terra Nova, sous la direction d'Étienne Rapp.
Oui.
En fait, Eric Bettens est trompettiste,
oui,
à la base.
Oui.
Moi, je suis oboïste. Et donc, dans les vents, il y a une certaine connivence.
Oui, Étienne Rapp, qu'on connaît par ailleurs, qui est un des fers de lance de la Philharmonique namuroise.
Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est encore une autre de mes cordes.
Une autre corde. À l'arc, ou à la guitare, ou au violon, je sais pas.
Exactement.
Puisqu'on est dans le monde de la musique.
Donc parce que aussi je fais partie aussi de la Philharmonique, où je revois Étienne effectivement régulièrement.
D'accord.
Mais pour revenir à ceci, je connais Eric depuis plus de 20 ans, il a commencé par tout autre chose que la musique, mais il vous le racontera mieux que moi, je pense.
Ouais. On est là pour en parler précisément.
Et à un moment donné, en tant qu'ami, il m'a proposé, j'ai eu l'honneur et la chance qu'il me propose ou qu'il me fasse écouter ses premières compositions, quoi.
D'accord.
Et donc ça, c'est, disons, c'est un moment, de grand honneur et surtout d'émotion.
Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez à quoi et à qui vous confiez cet événement exceptionnel. Autrement dit, quelqu'un qui ne décevra pas, certainement.
Ah, j'en suis
pas sûr.
J'en suis certain.
Éric qui est là, on est peut-être moins sûr, lui, mais non.
On met déjà la barre très haut.
D'accord, on met la barre très haut. La pression, Éric, la pression.
Ah, c'est ça.
Alors, très bien, ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Yvan, on se tourne vers vous, Éric Bettens, qui est la pierre angulaire du spectacle. Yvan l'a souligné. Quelle est la particularité du spectacle que vous allez proposer aux Damurois et aux autres, hein, enfin, tous ceux qui viendront à la Marlagne ce soir-là, le 28 février à 20h?
Alors, la particularité de ce spectacle, je vais dire que c'est un spectacle complet qui va mêler de la musique avec, donc ce sont toutes des compositions originales. Mmh. On mélange, donc ça c'est un de mes axes de travail, c'est de mélanger les instruments acoustiques et électroniques, même des instruments électroniques parfois un peu bizarroïdes qu'on va pouvoir découvrir sur scène. La vidéo est toujours très présente dans mes spectacles, parce que dans mes différentes activités de compositeur, une des plus grandes activités, c'est d'être compositeur pour de la musique de film, et plus particulièrement pour de la musique de documentaire liée à l'environnement, à l'océan et ce genre de choses. Donc la vidéo occupe une très grande place dans mes concerts. Il y aura de la danse aussi. Je serai accompagné d'un autre claviériste. Donc moi, je joue du clavier. Mmh. Je suis accompagné d'une chanteuse classique. Okay. Je suis accompagné aussi d'une violoniste. En fonction des concerts, ça change un petit peu aussi. Parfois, il y a des guitaristes qui viennent ou... Et ce qui est assez particulier, c'est que tous ces gens viennent de mondes musicaux complètement différents. Donc, c'est des gens qui viennent de l'électro, du jazz, du blues, du classique. Et tout le monde se retrouve sur scène autour de ma musique, autour D'accord. de mon projet, et chacun peut amener sa propre particularité. Voilà.
Est-ce que les lumières sont une composante importante du spectacle?
Oui, la lumière est une composante importante du spectacle. J'y mets un point d'honneur parce que cette lumière est étudiée en fonction des ambiances, en fonction des images. Donc je passe beaucoup de temps à créer les différents tableaux. Et puis après, pour la réalisation technique, je travaille toujours avec le même ingénieur lumière maintenant depuis quelques années, donc je vais le voir, je vais d'ailleurs le voir la semaine prochaine. Mm-hmm. Et lui, son défi, c'est de traduire mes délires en programmation.
Ah, ouais, voilà. Ouais. Alors, on parle de musique, on parle de lumière, on parle de vidéo, on parle d'image, et vous êtes à la base de la création et de la construction de tout cela.
Oui, tout à fait. Donc, c'est moi aussi qui assure la mise en scène. Donc, un spectacle comme ça.
C'est une sorte d'homme orchestre, alors, en quelque sorte.
Enfin, oui, un Rémi Bricard en temps moderne, mais je ne lance pas de Colombes.
Tout à fait moderne et contemporain.
Oui.
Précisément, ça a dû vous demander un temps considérable, le montage de ce spectacle, Éric.
Alors, ça demande toujours beaucoup de temps. En fait, ça pourrait me prendre beaucoup moins de temps. Parce que, évidemment...
Mais vous êtes un perfectionniste.
Exactement. Plus on fait des spectacles, plus on pourrait se dire, ok, ça je vais le reprendre du spectacle d'avant. Et j'ai la mauvaise ou bonne habitude, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, ça dépend du point de vue duquel on se place. Je vais toujours retravailler tous les morceaux. Je vais retravailler les vidéos. Donc, c'est-à-dire que même si je joue...
100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage.
Oui, exactement.
Polissez-le sans cesse et le repolissez. Boileau, 17e siècle.
Donc, déjà. C'est un petit peu...
Vous êtes un bon élève de Boileau, en fait, Éric.
Et c'est même un petit peu parfois compliqué pour les gens qui travaillent avec moi, parce que sur un même morceau, ce serait tellement facile de dire, ben voilà, on va faire ça comme on l'a fait lors du dernier spectacle. Eh bien non, ils ont une nouvelle mise en lumière, une nouvelle vidéo, des nouveaux arrangements. Donc moi, ça me demande beaucoup de temps, mais ça demande aussi beaucoup de temps à mon équipe aussi.
Voilà.
Mais apparemment, ils aiment ça, vu qu'ils reviennent.
Et ça nous donne alors des musiques un peu de l'étrange, des musiques un peu exceptionnelles, des musiques un peu bizarres, des musiques qu'on n'entend pas habituellement.
Je ne vais pas dire que c'est étrange
des musiques découvertes,
ou qu'on n'entend pas, mais le fait que ce soit toujours des compositions originales, donc déjà, c'est quelque chose de particulier. Et aussi... en fonction du type de spectacle, en fonction du fil rouge, je vais changer l'instrumentation, et donc parfois rien que changer un instrument, même s'il joue la même mélodie, on va donner une autre ambiance directement. On n'aura pas la même ambiance si une mélodie est jouée au violon ou à la guitare électrique, pour prendre deux exemples bien distincts.
Yvain, vous l'avez déjà vu ce spectacle, il vous a séduit, c'est ça qui vous l'a amené, ou bien vous lui faites confiance les yeux fermés?
Les yeux fermés, faut pas.
C'est une non, question.
C'est les oreilles fermées plutôt dans ce cas-ci, hein. mais je veux dire, le spectacle. Moi, j'ai déjà vu une série de spectacles d'Eric, donc je sais plus ou moins.
Précisément, un moment sur Terre.
Non, parce que chaque spectacle d'Eric est unique. Hein. Je veux dire, il le refait en fonction des idérata de ses commanditaires. Et donc, oui, j'ai vu des spectacles d'Eric. Il y en a un qui est, à mon avis, le plus proche de ce qu'on va avoir avec, je veux dire, un moment sur Terre, qui est effectivement un spectacle qu'il a donné à Trasny il y a maintenant un an, hein, je pense.
Un an, plus ou moins. Oui.
Voilà. C'est ça, il date de quand ce spectacle, Un moment sur Terre, d'il y a un an à peu près?
Alors, Un moment sur Terre, c'est...
Vous l'avez peut-être conçu, puis retravaillé, etc.
Alors, j'ai joué...
C'est l'objet d'une lente maturation.
D'une lente maturation. Disons que c'est un titre que j'aime bien, parce qu'en tant que, qu'être humain, nous ne passons qu'un petit moment sur Terre. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, que nous ne sommes que des locataires ici.
Tout à fait. Ouais.
Et donc, dans ce moment sur Terre, ça me permet, même si le titre est le même, le spectacle est à chaque fois différent. Même si le fil rouge est toujours commun, à savoir l'homme au centre de ses préoccupations, au centre de l'environnement. Donc voilà, mais on peut illustrer ça de manière bien différente en fonction des spectacles.
Alors, je vous propose de faire une première pause dans notre entretien, précisément. On va se retrouver dans un instant pour parler du titre Un moment sur Terre et puis de toutes sortes d'autres intéressantes préoccupations et puis aussi de réponses aux interrogations que vous vous faites, chers amis à l'écoute. Faut rappeler que vous êtes dans notre émission Farniente, que vous y êtes bien et que vous avez intérêt à continuer à nous écouter parce que nous sommes en présence de deux personnalités importantes. D'abord, Yvain Stiennon, parce qu'il amène ce spectacle ici à la maison au centre culturel de la Marlagne, hein, puisque ce n'est plus, c'est pas la maison de la culture, hein. La maison de la culture est en travaux pour le moment, c'est pas possible. Le centre culturel de la Marlagne, le mercredi 28 février à 20h, et puis aussi d'Eric Bettens. Précisément, Eric, vous nous proposez comme pause musicale un morceau de votre composition qui vient de cet album Empreinte, qui est sorti en 2012, et qui a pour titre Fly 2012, en fait. Donc, c'est-à-dire... Vol.
Alors, il faut savoir que j'ai écrit, il ne s'est pas toujours appelé Fly 2012. En fait, ce morceau était déjà bien ancien et je l'ai joué en live depuis 2005 ou 2006. D'accord. J'ai écrit, donc on m'a commandé un concert que j'ai dû aller jouer à Singapour, Suntec City à Singapour. Ah, ouais. Et j'ai écrit ce morceau dans l'avion. Et au début, il s'appelait Fly SQ308, je crois qu'il était le numéro du vol. Mais SQ308, c'est pas très sexy. D'accord. Donc, Fly 2012, etc. La sortie de l'album. Mais ce morceau a été écrit dans l'avion, en fait.
Et on s'envole en votre compagnie. Et on écoute ce Fly, Eric Bettens.
Equinox.
Nous sommes en compagnie d'Yvain Stiennon, un des organisateurs de ce spectacle d'exception du mercredi 28 avril au Centre culturel de la Marlagne sur les hauteurs de Ouépion. Vous le savez, Un moment sur Terre, c'est le titre de ce spectacle complet qui vous sera proposé par et avec Eric Bettens. Eric Bettens, que nous avons aussi l'occasion d'entendre dans un premier temps et que nous allons retrouver maintenant pour entrer un peu plus loin encore dans cette composition. Alors, ce titre, Eric, Un moment sur Terre, moi je le ressens un petit peu à la fois comme un instant banal et aussi comme un instant d'exception, voire d'éternité. Est-ce qu'on peut prendre ces deux acceptions différentes et les mélanger, à votre avis?
Oui, tout à fait, parce que Un moment sur Terre, c'est exactement ça en fait. Un moment sur Terre, c'est un petit peu, on peut le prendre de la manière, c'est un peu la vie de tous les jours, c'est un petit peu la routine. Et si on prend un peu de recul, si on s'éloigne un peu de la Terre et qu'on la regarde de loin, on pourrait se dire, mais tiens, finalement, passer quelques dizaines d'années sur cette Terre, on a quand même une chance énorme de vivre tout ce qui est là, tout ce qui nous entoure. Et quand on vit notre quotidien, on n'a pas, on prend pas toujours conscience de cette chance immense que nous avons d'être en vie et d'être conscient que nous sommes en vie. Parce qu'il y a, des êtres qui sont vivants et qui sont pas conscients, qui sont vivants et que eux traversent comme ça. Nous, on a cette conscience, on a cette mémoire, on peut profiter de chaque instant. Oui. Et, voilà. Donc, on peut vraiment jouer sur les deux côtés, sur le côté banal et le côté exceptionnel de ce titre. Et c'est pour ça que c'est un titre que j'aime beaucoup.
Alors précisément, Yvain, quand je vois ce titre à un moment sur Terre, je pense aussi à ces photos magnifiques de cette production de Yann Arthus-Bertrand. Alors, vous qui connaissez Eric Bettens, vous le voyez bien, illustrer les images d'un Yann Arthus-Bertrand.
Ah, tout à fait. Alors là, on est en plein dans ce que Eric. Il faudrait les faire se rencontrer. C'est vrai que c'est une très bonne suggestion. Si vous avez son adresse et son numéro de téléphone, on est preneur. Enfin, je pense, Eric.
On va l'appeler.
Oui, d'accord. Donc, on est vraiment tout à fait dans cette dimension-là. Et alors, justement, on parle de ce spectacle comme une sorte d'oscillation entre la violence et la douceur, qui sont deux aspects antinomiques en somme, mais cette violence et cette douceur ont impressionné votre perception de la Terre ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir, pour remettre un petit peu, pour comprendre un peu tout ça, qu'en 2001, pour essayer de trouver un peu une voie dans, dans la musique, j'ai participé sur les conseils de mon ami Luc Béouir, compositeur liégeois.
Béouir, bien sûr.
Il m'a dit, bah, écoute, il y a un concours de composition qui se fait à Antibes dans le cadre du Festival mondial de l'image sous-marine à Antibes, qui est le plus grand festival de films liés au monde océanique. Donc j'ai participé à ce concours en 2001 et j'ai reporté le premier prix de ce concours, le prix François de Roubaix. Et donc, le fait de retourner à ce festival année après année m'a fait rencontrer des gens incroyables. J'ai rencontré Hubert Reeves, j'ai rencontré Nicolas Hulot, j'ai rencontré la famille Cousteau, enfin tous des gens qu'on voit à la télé. J'étais là, j'ai pu discuter un peu avec eux, parfois rien que 5 minutes parce qu'ils sont, ils sont très 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 pris et occupés. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des amoureux de la nature, des amoureux de l'océan, des amoureux de la montagne, et donc ça a orienté fortement mon travail de composition. Bon, j'ai commencé à travailler avec ces gens-là, donc fatalement je suis, on parlait d'Yann Arthus-Bertrand il y a quelques, quelques instants. Donc écrire dans la musique pour tous ces grands espaces, c'est quand même un privilège. Et de rencontre en rencontre, la musique m'a aussi emmené à faire une expédition d'un mois en Antarctique et aussi en Arctique. Donc j'ai fait un peu
Alain, avec Alain Hubert peut-être. Non,
c'était pas Alain Hubert, c'était une organisation asiatique. Donc avec Michael Ho qui est le directeur de Ocean Geographic. Ocean Geographic, c'est le pendant asiatique du National Geographic en fait. Et donc j'ai l'occasion de partir aussi bien en Arctique qu'en Antarctique avec justement des photographes et des vidéastes qui travaillent notamment chez Ocean Geographic mais aussi au National Geographic. Donc là, au niveau image, j'en ai pris plein les yeux. J'ai appris énormément avec ces gens d'exception qui ont l'habitude de parcourir le monde, et fatalement ça a eu une influence sur ma production musicale.
À propos de la nature, il y a un poète qui a dit, on me dit une mer mais je suis une tombe. Autrement dit, c'est un petit peu ces deux aspects de douceur, la douceur de la mer et de la mère de famille, évidemment, et le drame de la tombe. Quand on voit, par exemple, des volcans, l'éruption de volcans, etc., c'est la terre qui crache son feu, c'est la violence, d'une certaine manière. Et d'autre part, il y a des paysages auxquels nous sommes, en général, accoutumés, qui sont des paysages marins, qui sont des plages de cocotiers, qui sont des plages, qui sont aussi les vallons qui nous entourent, ici, dans la région d'Améroise. Alors, quand on est un artiste comme vous, sensible à la musique, etc., ces images-là déclenchent des sons en vous. Comment ça se passe, le processus de composition ?
Alors, le processus de composition, ben, il peut être très différent d'un compositeur à l'autre. Moi, j'ai très souvent besoin d'images, que ce soit des images réelles, que ce soit des vidéos, que ce soit des souvenirs, que ce soit des... Voilà, j'ai besoin d'un support, d'une émotion pour travailler. Dans le cas de l'Antarctique, c'était... c'est indescriptible. Quand on est pas, c'est un peu comme le Grand Canyon. On a beau voir des cartes postales du Grand Canyon, quand on se trouve devant, on se dit waouh, on n'a jamais vu ça, même si on a vu des milliers de photos avant. Et l'Antarctique,
des déserts de glace.
Voilà, ce sont des montagnes, c'est indescriptible. C'est d'une beauté incroyable, mais en même temps, c'est très 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 dangereux. D'accord. On a risqué notre vie plusieurs fois. Du style, on marche sur une falaise et puis on entend un énorme bruit. On se retourne et la falaise qu'on vient sur laquelle on vient de passer, elle est 100 mètres plus bas parce que la glace s'est écroulée. Donc voilà, la nature, on parlait de volcan ou de raz-de-marée, la nature est là aussi pour nous rappeler à quel point nous ne passons qu'un moment sur Terre, finalement.
Yvan, vous qui êtes un mélomane aussi, hein, je le sais, vous êtes aussi attiré par la composition musicale. Tout comme Eric en parle, là, vous aurez aimé l'accompagner dans ses aventures qui lui procurent justement une émulsion intérieure importante.
Ah, les aventures en Antarctique et en Arctique, oui, j'aurais été preneur, oui.
Je crois qu'il n'y a pas que vous.
Quant à la composition, oui, à un certain niveau, je compose, je pianote un petit peu, mais disons que c'est pas au même niveau qu'Eric. Chacun son métier aussi.
Il faut un don pour ça. Ouais.
Je pense, et puis...
Beaucoup de travail quand même.
Voilà, c'est beaucoup de travail, et puis bon, bah lui, il a un certain genre, moi, quand je compose, c'est plutôt dans le genre jazz, enfin bref, je veux dire, on ne joue pas dans la même catégorie, quoi.
Bien sûr. Alors, dites-moi, Eric, on parle d'émotion à propos de ce spectacle, justement. Comment la suscitez-vous, cette émotion?
Ah, mais ça, c'est une grande question.
C'est la grande alchimie.
C'est la grande alchimie, et je dirais, il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Quand on crée un spectacle, c'est le public et comment va-t-il réagir. On peut donner le même spectacle devant trois publics différents et avoir trois réactions différentes. On voit ça par exemple dans les représentations théâtrales, peut-être encore plus qu'avec les concerts musicaux. On peut avoir un public qui réagit très bien le premier soir, un public qui est complètement plat le deuxième, alors que c'est le même spectacle. Et donc là, comment susciter l'émotion? C'est une des raisons pour lesquelles je donne beaucoup d'informations dans les concerts. Donc certains vont aller chercher leur émotion en voyant la violoniste jouer ou la danseuse faire ses mouvements. D'autres vont être attirés par la par les images, par la vidéo, d'autres par la musique, d'autres par ce que je vais raconter, parce que je raconte aussi des petits bouts d'histoire de ce que j'ai vécu en Antarctique. Pourquoi à ce moment-là j'ai vécu ça et comment je l'ai traduit après en musique. Et donc après je joue ça immédiatement pour un peu orienter et donner le fil rouge.
Intéressant, oui, évidemment. Tout à fait. Très bien. Et précisément, vous êtes sur scène, donc vous savez voir comment le public est touché par votre musique, par les images, par les sons, par tout ça. Vous le sentez, il y a quelque chose qui passe, une sorte de fluide comme ça entre vous et le public.
Alors, on va plutôt parler de fluide qui passe, oui. Parce que les voir, quand on est sur scène, on ne voit rien du tout.
Ah oui, c'est ça, on est aveuglé par les projecteurs.
On est aveuglé, et donc le public, c'est une grande masse, une grande masse noire.
Vous donnez le meilleur de vous-même.
On donne le meilleur de nous-mêmes, parce qu'en plus, on est content d'être là. Moi, je suis très heureux d'être sur scène, parce que c'est toujours l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Et donc là, quand on est sur scène, on donne tout, on y va, parce que on sait qu'on a, parfois il y a des projets, on met un an à les mettre sur pied, et en deux heures c'est fini, quoi. Donc on veut vraiment en profiter. Et là, on sent, oui, il y a le public. Mais il faut pas toujours se fier non plus à ce qu'on ressent. C'est pas parce que le public ne hurle pas et n'est pas debout en train de casser les chaises qu'il n'a pas apprécié.
Donc, les silences sont parfois très parlants.
Exactement.
Hein. Ouais,
exactement.
Tout à fait. Et votre spectacle, c'est l'aboutissement d'une démarche personnelle. Vous avez déjà évoqué, disons justement, cette expérience de l'Antarctique, etc. Mais je vais dire, de manière plus profonde, peut-être en dehors, je dirais, de l'aspect spectaculaire, en vous, il y a quelque chose qui vous pousse à faire ce spectacle.
Alors moi, ce genre de spectacle, j'aime justement bien proposer les images parce que c'est une manière détournée. Parce qu'on entend, il suffit d'allumer la télévision ou la radio, de lire les journaux, on entend les problèmes d'environnement, les problèmes de pollution, les problèmes voilà. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas avec mes spectacles, d'utiliser un autre canal de communication. D'accord. Donc, c'est-à-dire de dire aux gens, voyez, regardez, c'est comme ça que ça se passe dans le cadre d'un spectacle, dans un moment où ils sont détendus et où on a créé une espèce de communion. Ils n'ont pas l'impression d'écouter une info qui va les déprimer entre deux moments de la journée qui ont peut-être déjà été déprimants pour eux. Donc, moi, j'utilise ça un peu comme un canal de communication.
Mais le spectacle vous oblige à beaucoup voyager, à beaucoup vous déplacer, à voir du monde, à voir des choses de la nature qui sont exceptionnelles.
Ça, c'est un peu... Et même aussi, en restant dans mon studio, le fait... Donc, j'ai pas mal voyagé grâce à la musique, mais comme je fais beaucoup de films documentaires, rien qu'en voyant les films, je voyage en permanence aux quatre coins du monde, quoi.
Très bien. Dernière question pour cette séquence. Est-ce qu'il fait l'objet, ce spectacle, d'un album ou d'un DVD à venir, peut-être?
Non, il n'y a a priori pas de DVD qui
les albums non plus, vous en avez déjà quatre à votre
les albums en fait, donc les musiques qui sont jouées sont issues de différents albums.
D'accord.
Il y a quand même quelques compositions originales qui sont dessus.
Tout à fait. Eh ben ça laisse bien augurer votre initiative là, elle sera couronnée de succès, on a envie, non?
Ah ben j'espère hein. Ah ben du moment que le public est au rendez-vous, est-ce que ce dont je suis sûr d'ailleurs. Donc
absolument. Et précisément justement, on va s'offrir une petite pause avec un morceau que vous avez intitulé Icecape de Antarctic Odyssey. C'est votre dernier album sorti en 2014.
2014, donc suite justement à mon expédition en Antarctique.
Vous
donc,
pouvez dire un petit peu à travers cette musique ce qu'il y a de spécifique.
Alors, donc j'ai été invité dans cette expédition pour écrire la musique du film qui a été tourné là-bas. Ouais. Et Icecape, plus particulièrement celle-là, c'est dédié aux grands icebergs. Il faut savoir que là-bas, il y a des icebergs qui sont grands comme des pâtés de maison, qui font 300 mètres de long, 80 mètres de haut. Oui. Donc on se trouve devant ça, on se trouve vraiment minuscule.
Immensité,
c'est vraiment très beau, c'est très dangereux aussi, mais voilà, donc ce morceau-là est vraiment lié aux icebergs.
Eh bien, parole à la musique, alors voici Icecape d'Antarctic Odyssey, composition de Eric Bettens, rien que pour vous, chers amis d'Equinox, et plus particulièrement de l'émission Farniente. Restez en notre compagnie, vous y êtes bien. Nous sommes en compagnie de deux invités de marque, Eric Bettens, d'une part le compositeur, que vous aurez l'occasion de voir et puis d'entendre aussi évidemment le 28 février prochain au Centre culturel de la Marlagne, et puis Yvan Stiennon qui du Rotary Club de Profondeville, qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir amené ce spectacle à la disposition et justement l'appréciation des Namurois. On espère vous y voir nombreux. Restez en notre compagnie juste après la pause musicale. On revient pour une dernière partie avec nos deux invités.
Equinox.
Yvan Stiennon, co-organisateur de ce spectacle Un moment sur Terre que vous aurez l'occasion d'apprécier au Centre culturel de la Marlagne le 28 février prochain à 20h est en notre compagnie, de même que celle de Eric Bettens. Alors Eric, si nous pouvions revenir un peu sur votre parcours, qu'est-ce qui fait cet enthousiasme, cet emballement pour la musique? Est-ce que vous avez un milieu familial porteur? Vous avez fait des humanités musicales? Vous avez découvert des choses à l'université, vous jouez de plusieurs instruments, d'un ou de plusieurs instruments. Racontez-nous.
Alors, j'ai un parcours qui n'est un peu chaotique, en fait, au niveau de la musique. Donc, alors, à part mon grand-père, il n'y avait pas de musicien dans la famille. Donc, mon grand-père, qui est polonais et qui est venu de Pologne pendant la guerre avec son violon. Mm-hmm. Et donc, qui, lui, il jouait du bal, en fait, le samedi soir. Voilà. Donc, ça, c'était le seul musicien. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai un peu ce souvenir que, de temps en temps, quand j'allais le voir jouer, je regardais son orchestre et je me dis, waouh, c'est génial ce qu'ils font. Moi, je voudrais bien faire ça. Mais au niveau musical, ça s'arrête là.
On a impressionné. J'avais un grand-père qui joue aussi dans la fanfare.
Voilà.
Et quand j'entends une fanfare, rien à faire. Ça me rappelle mon grand-père.
Il y a quelque chose qui revient. Et donc, voilà. Et là, le côté folk a été repris par ma sœur, qui est violoniste et qu'on retrouvera sur scène.
D'accord.
Alors, mais sinon, j'ai suivi les cours à l'Académie de musique à Courcelles, comme le font un peu tous les enfants. Je veux dire, de manière un peu traditionnelle. Et déjà, à cette époque-là, j'aimais bien faire des arrangements, faire des petites compos, faire des reprises, des choses ainsi, sans informatique. Donc, tout était recopié au porte-plume, réservoir. Quand on faisait une erreur, il fallait recommencer. Enfin, c'était assez fastidieux à l'époque. Et puis, j'ai pris une toute autre voie. Donc, je n'ai pas étudié la musique de manière professionnelle. Alors, tout simplement parce que mes parents trouvaient que ce n'était pas un vrai métier, la musique. Donc, voilà, donc
artiste, attention.
Ah oui, c'est quelque
attention
chose.
Attention dans le jeu.
Ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas sérieux.
Et que ferions-nous sans les artistes?
Hein, oui, voilà.
Je vous le demande, Yvan. Hein, vous qui avez un métier solide comme un rock, qui construisait des maisons et des tours et tout.
Et encore, les architectes sont quand même d'une certaine façon des artistes, je dirais. C'est quelquefois notre drame, justement.
Dans le fond, vous êtes deux architectes. Un pour l'architecture musicale et l'autre pour l'architecture en pierre.
Moi, je mets en forme les volumes sous la lumière, comme dirait le Corbusier. Et Eric, disons, qui met en forme l'espace sonore.
Voilà, on va dire ça comme ça.
Très bien. Et alors, l'envol, ça s'est produit quand, vraiment?
Alors, mais j'ai jamais arrêté de faire de la musique.
D'accord.
Et donc, je disais tout à l'heure que j'ai remporté ce concours de composition en 2001. Mm-hmm. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais courtier en assurance. et que j'étais rentré un peu dans le monde des assurances pour trouver un peu un boulot en attendant.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce « en attendant » a duré près de 15 ans. Et la fin 2009, je me suis dit non, là vraiment, je veux mettre toutes les chances de mon côté, parce que en autodidacte, je créais un petit peu des musiques pour des films qui remportaient des prix, qui remportaient des concours. Donc, je me disais, il y a peut-être quelque chose.
C'est comme ça qu'on y arrive, par justement ce fait connaître.
Voilà. Grâce à... le fait de remporter ces prix et ces concours, je me disais, oui, il y a quand même quelque chose là derrière qui est un petit peu, un peu sérieux. Et donc, voilà, fin 2009, je suis complètement passé à la musique en full time. Et c'est l'époque où j'ai écrit un genre d'oratorio profane, Yvain le Chevalier au Lion, pour l'orchestre Terra Nova. Ben,
voilà, Yvain, vous aviez... Voilà.
Partout. Et donc, c'était pour chœur, orchestre, mais c'était quasiment un opéra, sauf qu'il n'était pas théâtralisé. Et c'est là le chef d'orchestre dont on parlait, Étienne Rapp, qui me dit, mais écoute, à ce moment-là, il faut que tu fasses les choses sérieusement, tu dois aller au conservatoire. Je dis, non, pas le conservatoire. Finalement, j'ai fait mon master en compo et en écriture, donc j'ai fait un peu les choses à l'envers. D'accord. Donc j'ai d'abord fait l'expérience et puis les études, mais toujours en élargissant, en travaillant bien aussi bien la musique électronique que la musique classique.
Vous étiez fasciné par la musique électronique en fait, puisque la musique classique, enfin bon, la guitare, le violon, etc. Bon, pas de problème, tout le monde connaît, mais les sons électroniques.
Les sons électroniques. Alors il faut savoir.
Ça provoquait quelque chose de particulier chez vous.
Oui, parce que bon, évidemment, moi j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup Vangelis, Jarre, tous ces gens, je veux dire, qui... Il faut savoir qu'au début, un synthétiseur, c'était aussi musical qu'une foreuse ou une tourneuse à gazon. Et ces gens-là, dans les années 70, avec Kraftwerk ou Tangerine Dream ou tout ça, ont réussi à faire quelque chose de musical avec ces machines qui n'étaient pas des instruments de musique au départ. Et donc, cette recherche de sonorité nouvelle m'a toujours un peu intéressé. Et donc, bon, voilà, les synthés font partie intégrante de mon quotidien.
Et alors, le spectacle Nidis, que vous avez présenté, justement, poussé par Luc Béhuir, qui vous a invité à venir présenter ce spectacle total déjà au Festival Mondial de l'Image Sous-Marine d'Antibes en France. Ça vous a vraiment mis le pied à l'étrier, ce prix François de Roubaix. On sait que François de Roubaix, c'est un grand créateur de musique de film, par ailleurs. C'est de genre de récompense comme ça qui vous propulse et qui vous fait connaître?
Oui, bien sûr, parce que ça... Bon, déjà, quand on a un prix, ben, ça fait toujours bien sur son CV. Et puis, mais c'est surtout le fait de retourner et de rencontrer des gens et de toujours enfoncer le clou un peu plus. Et de... Voilà, finalement, ma carrière, c'est un peu une histoire de rencontre. Donc, c'est une rencontre qui m'a permis... C'est la rencontre avec Luc Béhuir qui m'a permis d'aller à ce concours. C'est à ce concours que j'ai rencontré les premiers réalisateurs qui m'ont fait confiance pour écrire la musique de leur film. Donc d'autres, on a vu vraiment un phénomène.
Et la musique de film, c'est très important. Ça donne toute l'ambiance. Si vous n'avez pas de musique dans un film, parfois il peut arriver qu'il n'y ait pas de musique. Mais déjà les premiers, c'est les films muets avec un accompagnement musical en fonction. Et l'artiste et le musicien est inspiré par ce qui.
La musique du film a une énorme importance. Et on a vu le phénomène un peu s'inverser parce qu'au début c'est moi qui allais vers les réalisateurs pour leur proposer. Et puis au bout de 5 à 6 ans, là on a vu les réalisateurs qui avaient vu des films sur lesquels j'avais composé la musique, qui eux-mêmes me contactaient en disant, j'ai vu un film, tu as fait la musique, ça me plaît bien, est-ce que tu veux bien faire la musique de notre film?
Donc là, pour composer la musique dans un film, il faut avoir vu le film avant, parce que vous devez instiguer comme ça soit des sentiments d'horreur, d'effroi, de joie, de peine,
tout
de
à fait, il faut voir le film,
tous les sentiments en fait.
J'ai fait une fois une musique de film rien que sur base du scénario, mais c'est abominable, parce que c'est très difficile de se rendre compte.
Il faut voir les acteurs.
Il faut voir les images. Et il faut aussi que le réalisateur ne change pas le montage aussi pendant qu'on est en train d'écrire la musique. Parce que sinon, évidemment, la musique ne colle plus aux images. Et ça, c'est parfois, c'est parfois des petites expériences.
Et surprises. Donc, déjà, dès 2002, vous avez fait à peu près une soixantaine de productions, de films, des pièces de théâtre aussi.
Oui, ça, là, maintenant, je compte plus, mais je suis à plus de 100-110 musiques de films.
Parmi vos réalisations, il y a des sons et lumières. Alors parlons-en. Alors, c'est un petit peu la spécialité de Jean-Michel Jarre, ça.
Oui, voilà. Alors c'est vrai que ça a été un des premiers à faire des grands concerts spectacles comme ça. Alors sans avoir la prétention de faire comme lui, parce qu'évidemment déjà on n'a pas les mêmes budgets à notre disposition, mais offrir ça, détourner un lieu pendant une soirée. Donc j'ai fait par exemple le premier, c'était aux ascenseurs de Strépy. Donc c'est une cage en béton qui fait 82 mètres sous le plafond, où il y a plus de 13 secondes de réverbération. Donc c'est abominable pour jouer là-dedans. Donc on a dû placer un haut-parleur tous les 3,15 mètres, je pense, parce que au-delà, enfin, pour entourer les gens uniquement dans une bulle de son direct, et pas voilà. Donc le défi technique était de taille, et donc jouer.
Il faut
dans
avoir
un
des connaissances scientifiques aussi pour tout cela, parce que
oui, mais ça,
y a pas que l'inspiration.
Y a
oui,
pas
d'abord il y a des ingénieurs du son.
Il y a des ingénieurs du son, et bon voilà. Moi je leur dis on va jouer ça, on va jouer dans cet endroit-là, et puis ils se débrouillent. Voilà.
Et justement vos belles émotions, vos les choses dont vous êtes fiers. Il y a les 10 ans des ascenseurs de Stépitieux.
Oui, donc ça c'était.
Il y a le château de Trasny qui vous a fait confiance aussi.
Alors,
pour célébrer
la réouverture.
La réouverture
donc
du
là,
château.
C'était aussi un grand spectacle. Dernièrement, il y a quelques mois, j'ai fait un spectacle sur la commémoration de la mine, d'un puits minier, donc dans ma ville, en fait, à Courcelles. Et là où Yvain a eu l'occasion de voir l'envers du décor, vu que c'était un de mes régisseurs. Et voilà, donc on prend une histoire. Et c'est pas une conférence qu'on donne, mais je prends cette histoire. On a parlé notamment dans ce spectacle des femmes, des enfants dans la mine. Il y a plein de gens qui étaient là. Il y avait des mineurs, c'était bourré d'émotions. Et voilà quoi.
Comment faites-vous pour vous ressourcer, pour trouver des choses nouvelles, etc.? Vous participez à des masterclass par exemple?
Non,
pas spécialement. Vous enseignez aussi?
Oui, j'enseigne donc la musique électronique, enfin, la musique assistée par ordinateur dans une académie et l'écriture classique dans une autre. Donc les deux aspects. Au niveau ressources, non, ce sont les voyages et puis c'est simplement ne rien faire.
D'accord.
C'est ça que je crois que c'est ce qui me ressource le plus parfois. Ouais. Quand je fais de la musique toute la journée, c'est le soir.
Il arrive un moment
où de dire voilà, là il me faut pas de bruit et c'est à ce moment-là que ça vient. Parce que sinon on est toujours un petit peu dedans.
C'est un petit peu comme l'étudiant qui à un moment donné doit s'arrêter, laisser venir la nuit et tout ce qu'il a étudié il revient à la mémoire. Ouais,
oui,
une espèce de ressourcement intérieur, un peu comme une batterie. Vous comprenez ça, Yvain, vous
mais c'est la même chose pour l'architecture, je dirais. Hein.
Ouais,
c'est vrai qu'à un moment donné, on planche sur un plan et on ne trouve pas les solutions. Ouais. Et il suffit de s'arrêter quelquefois, quelques heures, voire une nuit. Mmh. Et à la limite, le lendemain matin, on a l'idée, je dirais, peut-être géniale, ou peut-être pas, mais enfin, on a une idée qui débloque le tout. Quoi.
Mmh. Ça,
c'est, c'est vrai, au niveau inspiration, c'est vrai que ça va quelquefois par à-coup. Quoi.
Pour vous consoler, quelqu'un comme Leonard Cohen a mis 5 ans avant de construire pleinement son Alléluia, hein, l'Alléluia qui est resté.
Oui,
et il a écrit 80 strophes et il n'en a gardé que 5 pour Alléluia, qui est une merveille, hein, évidemment, donc qui a été reprise 300 fois par des artistes différents. Alors, précisément, il y a vos albums, parlons-en, il y a Discovery en 2006, il y a Entre Terre et Mer, encore la Terre déjà là, en 2009, il y a L'Empreinte en 2012, il y a Antarctique Odyssée en 2014. Est-ce qu'il y a à travers ces albums justement un petit peu votre parcours aussi? Un album ne fait pas oublier un autre album, c'est chaque fois quelque chose de différent que vous apportez à l'auditeur?
Alors oui, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Discovery, c'était le premier, disons que voilà, un premier CD, c'était un petit peu une première étape, et dire voilà, je vais rassembler en un album tous les morceaux que j'ai fait sur une période d'une dizaine d'années, voilà. Mm-hmm. Donc ça c'était un peu le premier. Entre ciel et mer, c'est plus un recueil de musique de films qui avait été réarrangé pour donner une version plus CD, parce que la musique de film parfois ça peut faire 34 secondes ou 17 minutes quoi. Donc on donne un format un peu plus pop musique à ça, donc qui pour que ça rentre bien dans les CD. Empreinte, c'était plus destiné au live. Donc c'est beaucoup de morceaux que je joue en live, et qu'à un certain moment j'ai dit tiens, je vais en faire un CD aussi. Antarctique Odyssée, là c'était lié à la composition de la musique que j'ai faite pour cette expédition d'Antarctique. Et celui qui est en préparation maintenant, c'est une vieille idée que j'ai depuis longtemps, là c'est un pur électro.
Eh ben, c'est très bien. Où peut-on trouver vos disques, Eric? Où peut-on les trouver?
Alors, il fut une époque où on pouvait les trouver chez les disquaires. Chaque fois, au moment des sorties, on pouvait les trouver chez les disquaires. Mais le disque physique n'étant plus ce qu'il est vraiment, on peut les trouver sur iTunes, sur toutes les plateformes de téléchargement, Lego, Amazon, tout ça, voilà. D'accord. On peut obtenir les disques physiques par mon site, donc www.ericbetens.com.
Voilà, il suffit simplement d'aller sur www.ericbetens.com.
Sur le site, il y a une boutique en ligne. Alors, c'est vrai que quand un CD sort, on le retrouve un peu dans les bacs, mais bon, après, si Madonna passe juste après moi, ben je sors vite.
Yvan, le moment est venu de récapituler sur le plan pratique. Comment faire pour assister à ce spectacle précisément?
Bah d'abord, retenir la date. Donc, c'est le 28 février 2018 à 20h. Oui. Ouverture des portes à 19h30. Oui. Donc, s'il y en a qui veulent se désaltérer avant le concert, c'est possible. Mm-hmm. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau des places, il y a trois catégories de tarifs. Il y a les enfants, je veux dire, de moins de 12 ans, c'est 15€. Les places standards, c'est 25€. Et puis, pour les VIP, les Very Important Personnes, et il y en a beaucoup à Namur, je pense, c'est 50€. Et ils auront droit au champagne, ceux-là.
Ah, ils auront droit au champagne.
Voilà.
Évidemment, ils ont un traitement de faveur.
Et en plus, à une rencontre avec le compositeur.
Et une rencontre avec Eric, ce qu'il faut, son pesant d'or.
Voilà, tout à fait.
Son pesant de musique, en tout cas.
Voilà. Et alors, au niveau des réservations, tout ça, il y a le site du Rotary Profonde Ville, rotary-profondeville.be. Voilà. Donc ça, c'est pour le site. Il y a aussi un téléphone qui est disponible 24 heures sur 24. Donc là, bah, c'est un répondeur automatique et on peut réserver ses places via ce numéro au 081 13 99 00.
Donc on le redit, 081 13 99 00 si vous voulez davantage d'explications, mais vous pouvez bien évidemment aller sur le site du Rotary. Sur le site d'Equinox, eh bien il y a aussi de quoi faire, puisque vous pouvez par ce biais-là tenter votre chance pour obtenir d'avoir deux places gratuites pour ce magnifique concert, spectacle, événement. Et puis il y a aussi la page Facebook, Eric. Yvan, pardon.
Oui, tout à fait. Donc
la page Facebook.
Il y a le Rotary a un groupe, le Rotary Profondeville a un groupe sur Facebook, et on a créé l'événement sur Facebook où on remet effectivement des petites teasers, tout ça.
Il y a moyen d'avoir
on voit quelques petites vidéos qu'Eric nous a concoctées, pardon. Un autre membre du Rotary a aussi créé une petite vidéo aussi promotionnelle. Mm-hmm. Donc il y a de quoi s'amuser aussi
tout
sur Facebook.
Et c'est au Centre culturel Marcel Ichter de la Marlagne, 26 chemin des Maraudiers à Ouépion. Chers amis, on espère vous y retrouver nombreux. Et puis, Yvan, Eric, un tout grand merci.
Merci,
et
merci beaucoup.
Et plein succès pour votre belle manifestation, pour cette belle manifestation. Eric, on se quitte avec un morceau de votre composition, à nouveau, d'Antarctic Odyssey, de ce dernier album, qui s'intitule Blanca Espessura de Mar.
Oui.
C'est-à-dire?
Alors, il faut savoir que quand je suis revenu d'Antarctique et que j'étais en pleine production de ce CD, je reçois un email d'une chanteuse, donc d'une fille chanteuse, qui me dit « J'ai vu que tu étais allé en Antarctique. J'adore l'Antarctique, j'adore la pureté de la glace. » Enfin voilà, j'ai écrit des paroles. Mais il fallait savoir que moi, l'album, il était complètement bouclé. Ah oui. Et j'allais en mastering 3 jours plus tard. Donc c'est-à-dire que le mix, les enregistrements et tout, était fait. Et ce qui ne facilitait pas les choses, c'est que cette chanteuse, elle habite en Argentine. Et puis elle m'envoie un échantillon de sa voix. Et là, je tombe amoureux de sa voix. Je dis, c'est pas possible. Donc, je lui écris, je dis, écoute, si tu m'envoies les paroles ce soir, moi, demain, je te compose la musique, je te renvoie le backing, tu trouves un studio pour enregistrer la chanson chez toi, tu me renvoies, je mixe, et on est dans les temps pour faire le mastering. Et donc, finalement, cette chanson a été créée en 3 jours.
Toute chanson a une histoire, et celle-là est très belle. Blanca Espessura de Mar. Messieurs, merci beaucoup. Bon succès, Eric.
Merci.
Longue carrière. Yvan, encore de très belles choses, avec le Rotary de Profondeville.
Eh ben, merci, Guy. Voilà, on va essayer de continuer au mieux.
Voilà, en tout cas, chers amis, joignez l'utile à l'agréable. L'utile, c'est poser un bon geste, puisqu'il faut rappeler que c'est pour les œuvres caritatives, vous l'avez dit, Yvan, au début de cette émission. Et puis, l'agréable, parce qu'on passera certainement un très bon moment en compagnie d'un compositeur d'exception, Eric Bettens, qui était des nôtres aujourd'hui avec Yvan Stiennon. Merci, chers amis, et bon succès.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Et on se quitte, évidemment, avec la musique d'Eric Bettens.
Le site de la Radio Rock, equinoxnamur.be.